Vous le dites qu'il s'est renié. Vous le dites dans ce livre, hein, vous rappelez le discours de Bourget.
Je dis renoncement, voire reniement.
Renoncement, voire reniement. Donc vous êtes assez dur avec quelqu'un que vous avez quand même côtoyé d'assez près, puisque vous avez fait un livre d'entretien avec lui. Vous partagez le même avocat, si je me trompe.
Oui, oui, mais j'ai l'antériorité.
Vous avez l'antériorité. Donc est-ce que là aussi, c'est un peu... est-ce que vous parlez contre vous, ou est-ce que vous pensez contre vous quand vous parlez de François Hollande? Et dites-nous un peu comment vous le voyez aujourd'hui, après 2 ans de règne présidentiel, parce qu'il est en train de glisser vers l'hyper-président aussi, un peu, mine de rien. Et comment vous analysez cette situation? Est-ce qu'il faudrait finalement changer de République pour sortir de cette impasse?
Je vais venir à François Hollande, qui est peut-être en train de passer, non pas à l'hyper-présidence, mais peut-être à la présidence ligotée. J'y viendrai tout à l'heure. Mais vous savez que dans les archives des DNA, vous trouverez la pièce, la preuve, qui permettrait de montrer que j'ai une intériorité d'avocat.
C'est les pommes.
Une belle photo. Oui.
Un colmar.
Voilà. Vous verrez Jean-Pierre Mignard, dont vous entendez parler quand. Par exemple, quand un certain président de la République a des problèmes sentimentaux, bon, c'est l'avocat de la famille, Jean-Pierre Mignard. C'est le parrain de 2 des enfants. Mais il se trouve que Jean-Pierre Mignard est un copain que j'ai connu, je crois, exactement en 71. Hein, donc, et je crois qu'il a connu François Hollande une petite dizaine d'années plus tard. Et donc ça a toujours été mon avocat, et notamment quand j'ai eu un service militaire agité qui m'a amené aux arrêts de rigueur ici à la base aérienne de Colmar, parce que je défendais les droits d'expression des soldats. Toujours par la plume, hein, on ne se refait pas. Et du coup, j'ai eu la punition maximale, je n'avais pas le droit de visite. Et donc, pour le signifier, avec la Ligue des droits de l'homme, Jean-Pierre Mignard est venu à la porte de la base aérienne avec ma compagne, qui est toujours la femme de ma vie. Et donc, il y a des photos que vous pouvez retrouver, où vous verrez un Jean-Pierre Mignard plus mince. Voilà. Et qui témoignerait de ça. Bon. Deux éléments. Une des clés du livre, c'est pour ça que je vous racontais, j'insistais sur la question coloniale, parce que je lis les deux choses. Je pense qu'un des problèmes qu'a affronté notre pays, vous savez, je pense qu'on ne construit le futur qu'en maîtrisant le passé. J'ai été de ceux, et c'est toujours ça aussi, penser contre soi-même, qui ont joué ce rôle, au-delà des affaires, qui ont joué un rôle douloureux, parce que ça a été très violent, à la fin de la présidence de François Mitterrand, sur la question de Vichy, de l'État français, de la collaboration et de la responsabilité des élites majoritaires de l'époque dans la collaboration avec le nazisme. Nous avions un président à l'époque, de gauche, qui, dans sa jeunesse, avait été d'extrême droite, qui avait eu la Francis, qui avait donc d'abord accompagné le régime de Vichy. Moi, je pense que personne n'est condamné par son origine. Et François Mitterrand avait fait son chemin. Quel était notre problème avec François Mitterrand? C'est qu'il n'assumait pas ce chemin, qu'il ne le racontait pas, qu'il ne le disait pas, et qu'en ne le disant pas, au point même de mentir et de travestir, il empêchait de dénouer quelque chose. Nous avons dénoué cela. C'était, rappelez-vous, au début des années 90. Dans mon livre La Part d'ombre, 2 ans avant le livre de Pierre Péan, il y a tout un chapitre sur les relations avec Bousquet, sur Vichy, sur la Francisque déjà. C'était en 92. Nous avons dénoué ça en disant c'est pas une question de repentance, c'est pas se flageller, il faut regarder en face les choses. Le problème, c'est que nous n'avons pas dénoué un deuxième placard. Nous n'avons pas sorti un deuxième fantôme du placard. Et c'est la question de colonial, c'est-à-dire le fait que nous étions la très grande France. Nous nous sommes construits pendant 2 siècles dans la projection sur le monde, y compris notre richesse et la diversité de notre peuple, et y compris la diversité de notre peuple dans le va-et-vient. Moi, j'ai grandi aux Antilles et en Algérie, je suis un produit de cette histoire, tout en n'étant pas moi-même issu de ces territoires. Nous avons tous été marqué, frappé, transformé. Notre peuple est lié à cette histoire. Et notre rapport au monde est lié à cette histoire. Or, cette histoire, elle est figée, elle est nécrosée, elle est brûlante aujourd'hui, avec y compris des forces politiques qui voudraient la travestir, ce que j'appelle mentir et travestir, le bilan positif, arrêter avec la repentance. Non, regardons les choses. Oui, ça a été la décolonisation la plus loupée de toutes les décolonisations, la plus tardive, la plus violente, la plus aveugle, au point d'une perdition de la République à un moment qui a fait que la torture était présente. Tout ça, ça existait. Et dire ça, regarder ça en face, c'est se libérer. Et c'est éviter quelque chose qui est un poison, notamment dans la jeunesse, et dont font recette ceux qui exploitent ces moments troublés, c'est la concurrence des victimes. Nous avons reconnu le génocide. Et le fait que la France doit, à la fois, la France a sauvé beaucoup de juifs, et a été un pays dont le peuple, donc pas les élites, a fait beaucoup d'actes héroïques, mais nous avons mis au fronton de nos écoles, par exemple à Paris, nous avons rappelé les grandes rafles, nous avons rappelé cela. Mais ce crime existe, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler des autres crimes, et qu'il ne faut surtout pas donner le sentiment d'une hiérarchie entre les crimes. C'était mon désaccord avec la façon dont Manuel Valls a traité l'affaire Dieudonné. Je l'ai exprimé. J'ai dit, il y a 5 ans de ça, ce que je pensais très sévèrement de Dieudonné. Je rappelle dans le livre que Dieudonné devrait relire Fanon qui disait notre professeur de philosophie à Fort-de-France, donc à des Antillais, disait quand on dit du mal des Juifs, dressez l'oreille, on parle de vous. Et hier, je pensais qu'il nous parlait tout simplement du fait que tous les hommes sont frères. Et en fait, j'ai réfléchi, c'était tout le propos de peau noire, masque blanc. Il disait, non, derrière tout antisémite, il y a un négrophobe. C'est pour ça, à travers le cas de Dieudonné, que je dis, attention, la haine de l'autre est toujours un mépris de soi, voire une haine de soi. C'est au fond soi-même, c'est sa propre humanité que l'on finit par oublier et détester. Mais bon, je n'étais pas d'accord avec cette façon, par la censure préalable, au lieu de laisser de demander des comptes de ce que l'on dit dans l'espace public, et là de réprimer avec les lois disponibles, on donnait le sentiment d'une hiérarchie des victimes. Comme s'il y a un crime plus important que l'autre. Non, il y a des crimes, ils sont graves et chacun l'a vécu, et chaque communauté, chaque histoire. Donc je dis, pour moi c'est un des clés de ce livre. Quand je parle de l'horizon, de l'imaginaire, il faut dénouer cette histoire. Parce que c'est cette histoire qui travaille. Elle travaille quand, toujours l'ancien ministre de l'Intérieur, parle de l'ennemi intérieur. Formule qui m'a profondément choqué sur les réseaux, les jeunes qui sont par idéalisme, même s'ils prennent par idéalisme des idéologies meurtrières, c'est de l'idéalisme qui sont dans le djihad. Nous, on dit qu'on est contre la dictature syrienne. Eh bien, il y a des jeunes qui vont rejoindre, quand ils reviennent en France, on les met en prison. Alors qu'ils ont dit, mais c'est des méchants, je vais les combattre. Alors c'est un idéalisme dangereux, puisqu'ils côtoient du coup des idéologies dangereuses. Mais dans les pays, aux Pays-Bas, qu'est-ce qu'on fait quand ils reviennent? On ne les met pas en prison. On leur donne un logement, on les aide, et on leur dit, on vous aide à condition que vous acceptiez de suivre des cours de déradicalisation. Parce qu'on considère qu'à 17 ans, 18 ans, vous êtes jeune, vous avez un idéal. C'est un idéal perdu, mais c'est un idéal, et vous allez combattre quelqu'un. Un régime qu'on pense être notre ennemi aussi. Je dis ça parce que vous avez vu que des jeunes qui n'étaient même pas mineurs ont été pris, qui n'ont commis aucun acte délictuel, sauf d'aller essayer à la rencontre de ça, ont été pris pour association terroriste, etc. Bon. L'ennemi intérieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire derrière tout le monde entend l'islam et dire, bah, tiens, on est en guerre avec une partie de nous-mêmes. Et donc une partie de nous-mêmes, c'est-à-dire ceux qui, dans notre pays, comme être catholique, ou être juif, ou être protestant, on l'est à la fois par l'origine, par la culture, ou par la pratique religieuse. Hein, il y a différentes façons de l'être. Et donc, on dit ça, et on commence à continuer le venin d'une hiérarchie. Hiérarchie des cultures, hiérarchie des civilisations, des menaces, des dangers, des origines. Et donc, je le redis, pourquoi chez nous, on a tant de mal à dénouer ça, et à dire ça simplement, à en débattre tranquillement, à enseigner Frantz Fanon, qui est célèbre dans toutes les universités du monde entier, Et du coup, tant de mal avec des questions d'égalité, car du coup, c'est un poison de l'inégalité. Je le rappelle dans mon livre, regardez les coupés gigognes des 6 derniers mois, ça a été terrible. On parle des Roms, et hop, dans la foulée des Roms, ce que faisait monsieur Valls en plein été, bousculant l'agenda de François Hollande et de monsieur, le moment où ils allaient parler de prospective et de monsieur Hérault, hop, et dans la foulée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on parle des Noirs, à travers ce qui a été dit, était terrible pour madame Taubira. Mais imaginez, j'ai fait un débat avec elle il y a 2 jours. Elle avait les larmes aux yeux, c'était au moment de la nomination, de la déclaration de Hollande. Et elle avait les larmes qu'elle cachait. Elle a fait ce livre, hein, Parole de liberté. Elle disait, mais j'ai fait ça parce que moi j'ai trouvé ça très violent. Vous savez, cette petite fille qui a cette fraîcheur de la jeunesse, et je ne sais pas, j'espère qu'elle fera elle aussi son chemin de liberté, à qui ses parents ont inculqué de dire devant les caméras de télé, c'est pour qui la banane, hein, c'est pour la guenon. Madame Taubira, elle l'a pris très violemment, y compris dans une forme de solitude. On peut critiquer sa politique, bien sûr, mais ne pas faire ça. Mais, dit-elle, imaginez si moi je l'ai mal vécu, moi qui suis protégé. Imaginez ce que vivent beaucoup de notre jeunesse qui ont la même apparence que moi. Et c'est pour ça que parmi, là je dis bien reniement, l'histoire du contrôle au faciès, qui était une question très importante. Ma sœur n'est plus de ce monde. Elle a connu au Vietnam un Suisse. Elle était à l'UNICEF et lui était à la Croix-Rouge. Ils n'ont pas pu avoir d'enfants. Ils ont décidé d'adopter. Et ma sœur, voilà, quand elle décidait, elle prenait beaucoup. Donc ils ont adopté 3 enfants colombiens, qui sont mes neveux, dont l'un, elle a redonné un qui est le plus jeune, il s'appelle Edoui Junior. Bon, ils ont grandi en Suisse. Et puis le hasard de la vie, mon beau-frère est décédé d'un cancer, elle est décédée en 2009, elle est revenue en France. Ils ont grandi, donc leurs premières 10 années, ils étaient en Suisse. Ils ont la même mère, c'était une histoire un peu douloureuse, à Arménia, en Colombie, ils ont la même mère, pas forcément le même père, mais des types assez plus ou moins indiens. Ils ont donc jusqu'à leur préadolescence, ils étaient en Suisse. Puis ils se retrouvent à Nantes, notre ville natale, après, au moment de l'adolescence. Mais ils sont passés du jour à la nuit. À Lausanne, ils n'étaient pas contrôlés toutes les minutes. Le délit de faciès, ça existe et c'est vécu. C'est vécu. Et ces jeunes, ils l'ont vécu, y compris dans ce sentiment tout d'un coup. Avant, ils étaient dans un pays qui. Ils étaient chez eux. Ils ont la nationalité suisse, ils ont la nationalité française. Mais en France, ils le vivaient. Je dis ça parce que il faut toujours avoir ça auprès de soi. Hein, et dans les familles recomposées diverses, on sent cette réalité-là. Donc, je vous dis ça parce que c'est le cœur de mon propos. Je pense qu'il faut qu'on dénoue quelque chose qui nous plombe, qui nous tire, et qui est au cœur, et que nous n'avons pas voulu dénouer, et qui est au cœur de notre peur du monde, de notre rapport au monde, de notre difficulté à inventer un nouveau rapport au monde, d'être y compris la Grande-Bretagne, d'accord, elle est liée à la puissance américaine, on peut discuter de sa politique, etc. Mais rendez-vous compte, 50 ans d'indépendance africaine, une intervention française par an, 5 ans maintenant, si on fait la moyenne, ce sont pas toutes, parfois il y en a eu plusieurs la même année, mais il y a eu 50 interventions françaises en Afrique, et dont l'aventure centrafricaine qui est faite dans une solitude sans avoir préparé ses arrières, et où évidemment on rentre dans un mécanisme qui va être infernal. J'en discutais avec Pierre Joxe, ancien ministre de la Défense récemment, qui pense la même chose et qui n'est pas un homme irresponsable. Et donc, ça joue sur notre relation. Par exemple, je ne le dis pas dans le livre tellement ça m'avait blessé. Je l'évoque à un moment en disant l'aventure malienne. Que François Hollande ait pu dire au Mali en arrivant à Bamako, c'est le jour le plus important de ma vie politique. Mais c'est une phrase de civil qui s'amuse à faire la guerre. Jamais un militaire ne laisserait dire une chose comme ça. C'est grave la guerre. Et ça ne peut pas être le jour le plus heureux d'un homme politique. Ça ne peut pas être son jour le plus important. Ça peut être ce jour peut-être douloureux, difficile, délicat. Donc voilà, je réagis en franchise hein, à tout ce que vous m'avez suscité. Alors j'en viens à François Hollande. Oui, je le connais, c'est un des rares hommes politiques que je tutoie, parce que je l'ai connu jeune énarque, membre de cabinet ministériel, exactement en 1983. Il était dans le cabinet du porte-parole du gouvernement, du ministre porte-parole, qui était Max Gallo. Il a depuis été vers Sarkozy et vers l'Académie française. Et donc, je l'ai connu à cette époque. Bon. Et après, il a fait son chemin, et donc nous avons continué à nous voir. Et en effet, en 2006, rodant son ambition présidentielle, il m'a demandé si j'étais off duty, comme on dit en anglais, c'est-à-dire j'étais entre le monde, et je n'avais pas encore l'aventure de Mediapart, donc j'aurais refusé. Je ne fais pas, je ne suis pas un journaliste politique, je ne fais pas les livres sur mesure des politiques. Donc il me dit, j'étais disponible, je n'avais pas de responsabilité dans un journal. Il me dit, est-ce que tu accepterais de faire un livre de dialogue ? Je dis oui, à condition que ce soit un livre d'interpellation. Ce qui fait que je me dis en blaguant le monde de la reprise qu'il a dit parfois les questions sont plus longues que les réponses, ce qui n'est pas vrai. Mais les questions sont longues parfois. C'est un livre d'interpellation et c'est un bon livre. C'est-à-dire qu'on a vraiment discuté au fond des choses. Et donc mon embarras aujourd'hui, penser contre soi-même, c'est que j'avoue ne pas comprendre. Je l'ai encore fait à France Culture ce matin. Je suis une sorte de notaire qui rappelle à François Hollande dont nous avons discuté. Parce que le type avec qui il discute, c'est celui qui a sorti les affaires sur Mitterrand. C'est celui qui est un critique du présidentialisme. C'est celui qui dit, mais attendez, ces institutions sont plus fortes que les hommes. Elles vous corrompent, elles vous prennent. François Mitterrand, ma critique n'était pas personnelle. J'ai dit, il a été présomptueux. Ces institutions se sont emparées de lui. Et l'ont vaincu quelque part. Et donc François Hollande me répond. Il me répond franchement, il dit il ne faut pas être dans le jeu, il faut être dans le nous, on ne pourra pas transformer sans la mobilisation du peuple. Il dit même à propos du quinquennat qu'il faut faire une vérification à mi-mandat et que si cette vérification nationale est défavorable, il faut en tirer les conséquences comme président. Il dit qu'il faut en tirer les conséquences comme président, puisque nous sommes dans cette folie institutionnelle. Qui est que celui qui est sanctionné est celui qui n'est pas responsable, pas coupable, pas touché, et qui peut élaborer tout seul, comme son bon plaisir, la solution, y compris une solution qui soit à rebours des attentes de son propre électorat. Comment ça se passe dans les autres démocraties européennes ? Bien sûr qu'il y a des idées extrêmes qui naissent de la crise, mais je rappelle qu'en France, le Front National, c'est une longue durée, une longue histoire idéologique, et que son ascension électorale commence en 83-84, bien avant la crise de l'Europe, bien avant la chute du mur, etc. Et donc, pourquoi tout ça se nécrose chez nous ? Parce qu'en effet, les gens ont le sentiment que la démocratie ne leur appartient pas. Ils ont le sentiment que Chirac, il fait la fracture sociale pour se faire élire en 95, et il l'oublie. Que Sarkozy fait la présidence exemplaire, et qu'il l'oublie. Que Hollande fait le discours du Bourget et qu'il l'oublie. Mais non seulement qu'il l'oublie, mais que les institutions leur permettent de durer, de survivre, sans avoir à composer avec la réalité. Dans une démocratie parlementaire normale, il y a deux façons que ça se passe. Et là, vous verrez, c'est au cœur de ces institutions qui n'ont pas créé un État fort, mais finalement, aujourd'hui, un État faible. Comment ça se passerait ? Le parti majoritaire se réunirait. Parce que c'est lui qui a la majorité à l'Assemblée et qui a donc choisi le Premier ministre. Il discuterait entre ses différents courants, tendances, et il déciderait s'il garde le même cap ou s'il change de cap, ce serait un vote, une délibération démocratique, et du coup s'il change ou non de chef, donc de Premier ministre. Nous, on ne peut pas changer de chef. Deuxièmement, qu'est-ce qui se passerait s'il y a des alliés, et les Verts en ont discuté hier lors de leur bureau exécutif, je ne sais pas comment ça s'appelle, les écologistes. Ben, qu'est-ce qu'il ferait ? Et là, ben, on a des alliés, on se réunit, on discute. C'est pas une négociation de marchand de tapis de dernière minute. On dit, eh ben, est-ce qu'on fait un contrat de gouvernement ? Regardez comment le contrat de gouvernement entre les deux formations politiques allemandes a mis près de 2 mois à être conclu après les élections. Et là, on est dans une démocratie qui, loin d'être forte, est prisonnière de la démocratie d'opinion. Hollande est sommé de choisir un nouveau Premier ministre dès le lendemain, et il est sommé de choisir le Premier ministre qui, depuis qu'il est élu, dit « je veux être Premier ministre » à la place du vizir qui est déjà là, au point de lui casser la baraque tous les 6 mois. C'est ce qui s'est passé, et on comprend que Jean-Marc Ayrault en soit profondément blessé. C'est un système aberrant. Et ce système, en effet, est né d'une situation aberrante, exceptionnelle. nous avons des institutions nées de la crise coloniale, qui était une guerre civile, avec des attentats y compris en France. Et donc elles sont d'exception. Et quelle est ma mise en garde? C'est que ces politiques, à force de prendre l'urgence pour l'essentiel, comme dit Edgar Morin, on oublie toujours l'urgence de l'essentiel. Ça vaut pour les questions écologiques, mais ça vaut pour les questions démocratiques. Ils critiquent toujours ça dans l'opposition. On a publié, juste avant le second tour, pas seulement des révélations sur Strasbourg, mais on a publié une interview avec M. Bruno Le Maire de l'UMP, qui dit notre démocratie est fatiguée et va très mal. Donc dans l'opposition, ils sont tous d'accord pour dire ça. Ce que disait Hollande, ce que disait M. Montebourg, qui parlait de la machine à trahir, titre qu'on pourrait lui rappeler, et ainsi de suite. Bon, ils sont tous d'accord de dire ça dans l'opposition. Et une fois qu'ils sont au pouvoir, ils n'ont plus l'énergie de dire « mais j'en tire les conséquences, je bouge ça vraiment ». Et du coup, on est devant cette situation où nous n'avons pas prise. Mais qu'est-ce que mon alerte? C'est que l'accident peut arriver. Moi, je n'ai eu aucune surprise au résultat des municipales. Relisez ce livre qui est terminé en janvier, je pense que tout y est écrit. Je n'ai aucune surprise du résultat des municipales. Quand je parle d'une droite qui a libéré des idées qui sont contraires à celles de la droite extrême et qui a créé la porosité entre son électorat et l'électorat d'extrême droite, ce que vous avez pu vérifier dans les urnes. Quand je parle d'une gauche qui a démobilisé son électorat, ce qu'on a pu vérifier dans les urnes au niveau de l'abstention. Et donc, quel est le danger? Eh bien, le danger, c'est que l'accident arrive. C'est que nous ayons ces idées que je combats, qu'elles prennent le pouvoir. Qu'elles prennent le pouvoir dans un accident électoral et avec des institutions qui leur demandent tous les pouvoirs, car ce sont des institutions d'exception, avec l'article 16 qui permet au président de la République de créer lui-même un état d'exception. Ce sont des institutions putschistes, profondément, auxquelles que nous acceptons. Et moi, c'est vous que j'interpelle en disant ça, parce qu'à force d'être silencieux sur tout ça, nous en sommes quelque part complices. Et nous permettons à cela de s'installer. C'est pour ça que je parle du Titanic. Je dis, on va... Tout le monde sait ça. Monsieur Hérault l'a vécu, et maintenant il s'en rend compte. Et on va dans le mur, on va dans l'iceberg, on le sait. J'ai, par exemple, en un débat, on est dans la capitale européenne. Je suis pour l'Europe. Mais je dis depuis le début que ceux qui sont pour l'Europe doivent apprendre des leçons du vote négatif de 2005, et doivent surtout apprendre de l'échec d'une Europe qui se construit sur la dette, c'est-à-dire dans une logique financière, marchande, économique et insuffisamment dans une logique politique lisible pour les peuples. Hollande a gagné en disant la finance, la présidence normale et je vais renégocier l'euro. Je vais renégocier l'euro. Moi, l'Européen, je vais renégocier l'euro. Et du coup, je nomme, je rappelle juste là que les trois hommes forts du nouveau gouvernement, là, quatre même, je pourrais ajouter avec M. Cazeneuve, M. Hamon, M. Montebourg, M. Valls, M. Fabius, étaient tous pour le nom. Je rappelle juste hein, que l'homme du oui a un gouvernement du non. Bon. Et donc, il dit on va renégocier. Et que se passe-t-il à l'été? Arrive le TSCG. Et là, sous prétexte de soi-disant une petite clause que vous avez tous oublié, qu'il ne prend même pas le temps d'imposer à Mme Merkel au moins 3 mois de négociation, et hop, doigt sur la couture du pantalon, pas de débat, vous devez voter. J'ai fait un article, je reprends en partie les arguments de l'époque dans ce livre, pour dire, mais attendez, on interdit le débat européen, alors qu'il y avait le moyen d'avoir un débat européen, que vous aviez la légitimité des urnes pour le poser, comme vient de faire le Premier ministre italien, démocratie où l'on respire. Est-ce que ça a été un drame qu'on change de Premier ministre? Ben non. On respire, et au bout d'un an, et on continue, et on avance. Et la démocratie italienne, bien sûr, il y a de la corruption, aucune démocratie n'est parfaite, mais elle vit, elle avance. Et il a dit, ben moi, je ne peux pas à la fois résoudre la question des comptes et faire le pacte de stabilité dans les coûts. Comme d'ailleurs Schröder l'avait fait, tout le monde l'a oublié. Il avait lâché la bride avec l'accord de Chirac. Parce que quelle est l'équation infernale dans laquelle ils se sont mis dès l'été 2012? Pendant tout ce temps où il y a cette démocratie qui patine, le 15 avril, donc c'est 2 semaines, il faut rendre 2 documents à l'Union européenne, l'un sur le pacte de stabilité et l'autre sur les réformes de structure. et auquel François Hollande a ajouté en le décidant tout seul, sans délibération parlementaire, 50 milliards d'économies, avec un pacte dit de responsabilité que les parlementaires, dans un vote de confiance, sont supposés voter sans débat. C'est pas possible. Comment, au-delà des acteurs, mais comment ne, c'est une pédagogie antidémocratique. Comment le peuple peut-il comprendre? Et voilà, donc moi je vous lance cet appel parce que je pense que qu'un jour on racontera ça, mais comme on dit, parfois on dit, mais comment, par exemple l'esclavage, parce que ça a à voir avec la servitude, hein, si vous savez, je rappelle.
Je
suis trop proche.
Non, est-ce que tu nous proposes que vous mangiez 5 minutes et qu'après on...